Les infos choisies
chaque vendredi de 12h30 à 13h
sur Radio Galère à Marseille
et Ayoli Radio à Avignon.
Des infos
qui nous touchent,
qui nous concernent,
qui nous ressemblent,
qui nous parlent,
qui nous donnent de la force,
qui nous font réagir.
C'est parti pour 30 minutes d'infos choisies.
Bonjour, nous sommes en force aujourd'hui et nous sommes le 24 avril 2026 et il est 12h passé de 31 minutes. C'est les infos choisies, bien sûr.
Les infos choisies. Et aujourd'hui, je crois bien qu'on parle de bure un peu.
Et oui, parce qu'on revient en fait dimanche 20 avril. Les médias mainstream informaient d'une manif interdite par la préfecture de la Meuse contre le projet d'enfouissement de déchets radioactifs Cigéo. Il s'agissait de l'expulsion d'un lieu de lutte stratégique, la gare de Luméville, qui existait depuis 19 ans. Cigéo, c'est un site pour stocker les déchets radioactifs dans les sous-sols, concrètement prévu pour au moins un siècle et demi, qui représente plus de 34 milliards d'euros pour sa mise en place et dont il n'y a aucune décision prise sur un plan national pour sa mise en œuvre. Ça s'appelle passer en force. De ce qui s'active récemment à Bure, c'est aussi passer en force avant les présidentielles de 2027. Donc j'avais envie de sortir des réalités médiatiques pour qu'on écoute les réalités de lutte. Voici des extraits d'un texte publié après la manif de dimanche dernier par des personnes qui vivent et luttent en Sud-Meuse contre Cigéo et son monde et qui précisent que ce texte ne représente pas le point de vue de toute l'opposition à Cigéo.
La journée de dimanche, nous sommes partis en marche de la gare. Nous étions une centaine, entourés de fourgons de gendarmes. Tout d'abord de l'Andra, dans le bois le jus, et sur les axes routiers, du Labo au bois, de Mandres-en-Barrois à Cirefontaine, mais aussi les grands axes tels que Joinville et Ligny. L'Andra et ses flics ont visiblement peur de nous. Le préfet a annoncé 800 gendarmes mobiles. Nous avons observé pour sûr plusieurs centaines. Ce dimanche, c'était le beau temps. La plantation de patates, de salades et d'aromatiques de la gare sur les terrains de l'Andra, les barricades qui fleurissent sur la route, celles qui brûlent, c'est un moment très joyeux et beau.
Plus globalement, le contexte dans lequel se placent les événements de ces derniers jours est important pour comprendre. La pression exercée par l'État, l'Andra et les keufs durent depuis des années. La répression dans la zone de Bure est connue, notamment les stratégies de harcèlement et de nombreux contrôles d'identité. Ces derniers temps, s'organiser à la gare et dans les lieux alentours signifiait d'être attentif aux drones, hélicoptères, voitures des gendarmes, mais aussi à la vidéosurveillance numérique. Aussi, des dispositifs monstrueux sont systématiquement déployés lors des actions, que ce soit par le nombre de gendarmes ou par le matériel dont ils disposent. L'État décide de l'agenda et de l'avancement du projet Cigéo, en imposant ses dates et son rapport de force qui n'a apparemment aucune limite. Nous avons peu de contrôle face à cela, face aux armes du capitalisme. Jouer leur jeu, s'adapter à leur rythme et leurs décisions, c'est l'assurance de broyer notre énergie, nos santé mentale, nos liens, nos vies. Décider de partir et d'étendre la ZAD de la gare sur la route était une manière de reprendre du pouvoir sur ce qui nous était imposé.
Le départ de la gare ce 19 avril, ou 31 septembre sur le calendrier infini, a été un départ choisi. Il était symbolique et ne concernait pas tout le monde de la même façon. Certains et certaines sont restés jusqu'au soir de l'évacuation et d'autres continuent des mouvements dans l'ombre. De nombreuses personnes, pour de multiples raisons, ne pouvaient ou ne voulait pas envisager de rester sur place sous la pression d'une expulsion et ou d'une évacuation policière. Ce départ leur a permis de finir en beauté, apportant leur aide, leur énergie et leur amour de la guerre aux barricades, enflammée quelques heures plus tard. Sur toute la journée de dimanche, il n'y a eu aucun ou aucune blessée, aucune interpellation et aucune garde à vue. L'organisation des médics, l'anticipation et l'improvisation logistique sur les autres lieux, l'anticipation et la mobilisation de la Legal Team, mais aussi des soutiens qui ont convergé et des anciens anciennes qui se relient à nouveau à ce lieu, à cet espace de quelques jours ou de quelques heures. Tout cela a permis de nous tenir ensemble et de dérouler un plan légèrement obscur qui a été le nôtre du début à la fin.
Un appel à la mobilisation a été lancé pour défendre la gare, pour venir en amont à une semaine pour faire dérailler l'expulsion de la gare. La semaine de chantier, de criers, d'ateliers, de spectacles et de fêtes a eu lieu. Les préparatifs de l'évacuation ont pu être réalisés. Le niveau de stress relativise toujours la joie et le succès de moments comme ceux que nous venons de vivre. Les peurs des unes et des autres, qui s'entrechoquent parfois, rendent difficile l'émulation collective. Cependant, nous avons de bonnes raisons d'avoir peur, et nous trouvons une fierté tout aussi grande à prendre soin les uns les unes des autres, comme nous le pouvons, pour se soutenir ensemble aussi longtemps que possible. Tout au long de la journée de ce dimanche, les efforts des derniers jours, des derniers mois et même des dernières années ont abouti à une dynamique collective qui a été une grande joie. Étendre la gare, même pour quelques heures, ça a été une nouvelle démonstration de ce que nous sommes capables de faire collectivement. Et nous gardons précieusement ces moments dans nos têtes et dans nos cœurs, car nous savons déjà que le souvenir, que leur souvenir, nous aidera pour la suite.
Et des souvenirs joyeux de cette manif où le véhicule blindé Centaure n'a pas réussi à démanteler une barricade et où les flics ont dû le faire à la main. Une éolienne levée par une vingtaine de personnes pour contrer les drones. Et malgré tout ça, le contexte des expropriations par l'ANDRA, qui a concerné de nombreuses familles du sud Meuse, reste effrayant. Il a parfois, souvent été difficile de trouver ou clarifier collectivement les perspectives de lutte, malgré la quantité phénoménale de personnes l'ayant traversée, habitée et soutenue. La gare reste un terrain de 8 hectares perdu au fin fond de la Meuse. Ce n'était pas forcément un consensus, mais nous étions plusieurs à redire « la gare, on va la perdre, on ne sait pas quand exactement, mais on peut décider de comment on la perd ». C'est pour ça là qu'on veut maintenant célébrer l'occupation illégale qui a commencé pendant septembre infini, qui a passé un hiver et a débouché sur cette journée du 231 septembre. Cette occupation a permis quantité de choses. Cette occupation, c'est aussi la fin de la vie d'un lieu qui a duré presque 20 ans. Nous allons être témoins de sa destruction par l'ANDRA. Cela nous met déjà en rage, mais nous savons aussi que ce souvenir portera nos colères que nous déploierons contre les travaux de Cigéo, s'ils commencent véritablement un jour.
Devant nous, quantité de choses à venir. Si parfois les perspectives sont sombres parce que nous faisons face à des ennemis puissants et que leurs contradictions dans nos organisations semblent parfois insurmontables, nous essayons de ne jamais oublier que la lutte contre le nucléaire est une lutte contre le monde du nucléaire. Il n'y a pas d'alternative soutenable au nucléaire. C'est dans l'organisation politique et sociale qu'il y a des réponses à trouver. Des gouvernements trouvent justifiable de sacrifier des territoires, comme au Congo ou ailleurs, pour extraire l'uranium et la quantité phénoménale de métaux qu'il faut à l'industrie du nucléaire et à l'électrification du monde. Justifiable de soumettre des peuples entiers à la menace nucléaire comme au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, on rappelle que les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU sont les 5 premières puissances à avoir acquis l'arme nucléaire, pour maintenir l'hégémonie capitaliste de l'Occident. Justifiable d'avancer toujours plus dans la destruction capitaliste qui nous entraîne désormais dans un effondrement écologique généralisé. Il n'est jamais trop tard pour stopper la destruction, tout en intégrant que des pertes sont progressivement irréversibles et dont nous devons nous faire le deuil.
Nous n'acceptons pas ces constats comme des fatalités. Il y a bien d'autres réalités qui luttent pour exister et qui témoignent de la possibilité de vivre tout autrement. Ces gouvernements nous dégoûtent et nous n'avons aucune confiance dans le fait qu'ils pourvoient aux besoins des populations. Ils ne savent qu'amadouer les plus forts en sacrifiant les plus faibles. Nous trouvons notre puissance ailleurs que dans la domination, dans la solidarité, toujours en construction, dans le soin des unes et des autres, toujours en transformation, dans la détermination à se maintenir debout face aux fascistes de ce monde. Plus localement, Cigéo continue d'avancer. Il a déjà du retard, son coût va continuer d'augmenter et la relance du nucléaire n'est pas encore faite. Mais Cigéo avance néanmoins. D'ici quelques semaines, une énième enquête publique se tiendra dans le sud Meuse à propos de la DAC, déclaration d'autorisation de création, en cours d'examen par les instances du nucléaire. Cette enquête publique se tiendra à distance, en visio, hein, probablement parce qu'ils savent qu'on ne la laisserait pas se dérouler sans encombre. Cette enquête publique sera une farce, comme les précédentes. Une farce serait drôle si les enjeux n'étaient pas aussi énormes. mais elle va servir de caution démocratique et alimenter les stratégies d'acceptabilité sociale de l'ANDRA en Meuse et en Haute-Marne. Leur objectif est de faire valider la DAC avant 2027, avant les présidentielles, peut-être, sûrement.
Si les nucléocrates ont peur de l'instabilité politique, nous avons des indices de ce qu'il faut continuer à faire. Soutenir et prendre part à toutes les luttes, partout, autant que nous le pouvons. Ici en Meuse, il y a de l'espace pour beaucoup de monde. Et bien sûr, les possibilités de mobilisation dépendent en grande partie d'une quantité de personnes organisées suffisamment importantes sur place. Mais la lutte en Meuse n'est pas plus importante que d'autres luttes ailleurs. Ce qui importe est plutôt les liens entre nos luttes et la solidarité qu'on arrive à construire. Alors, venez en Meuse et prenez le temps de venir, qu'on ait le temps de s'organiser justement. La lutte à Bure est d'ores et déjà présente dans de multiples endroits. Il appartient à tout le monde de se poser la question. Comment stopper le désastre nucléaire ? Et si la joie de vous installer en Meuse vous attrape pour un temps ou pour longtemps, sachez que vous êtes déjà bienvenue.
Très chère Lagarre, au revoir. Lagarre, nous t'avons donc dit au revoir. Nous gardons en mémoire tout ce que tu représentes, tous les souvenirs, les symboles. Nous chérirons dans nos cœurs nos souvenirs et quelques traces, telles que les hymnes qui ont été publiées tout au long de ce très long septembre infini. Nous t'avons dit au revoir, mais pas adieu. Certes, la fin de la gare comme lieu de vie est une douleur immense, mais ce n'est pas la fin de notre histoire, la gare. Ne crois pas que nous laisserons les travaux se dérouler sans encombre, ni les trains castors passer sur toi sans que ça déraille. Tu nous manques fort. À la prochaine.
Eh, c'est les infos choisies.
Marseille n'est pas une ville pour touristes. Il n'y a rien à voir. Sa beauté ne se photographie pas. Elle se partage. Ici, il faut prendre parti. Se passionner. Être pour. Être contre. Être violemment. Alors seulement, ce qui est à voir se donne à voir. Et là, trop tard. On est en plein drame. Un drame antique où le héros, c'est la mort. À Marseille, même pour perdre, il faut savoir se battre. Voilà ce qu'écrivait Jean-Claude Izzo dans Total Chaos, le premier tome de sa trilogie sur Fabien Montalier, paru entre 1995 et 1998. Donc dans cette trilogie, Izzo il a bien montré comment Marseille a évolué et s'est changé pour devenir une ville qui se tourne vers le tourisme. Comme d'autres villes méditerranéennes qui s'étaient majoritairement développées autour des activités portuaires et industrielles, la mutation vers le tourisme elle entraîne la disparition de nombreux emplois. Elle tend à accentuer l'exclusion sociale et à faire augmenter les prix de l'immobilier. Alors, super nouvelle, la ville a inauguré ce mois-ci le grand port maritime de Marseille-Fos pour qu'on puisse accueillir toujours plus de croisiéristes avec des quais de recharge électrique maintenant des bateaux. Voilà, les gros bateaux se mettent au vert. Alors il y a un collectif à Marseille qui s'appelle Stop Croisière, voilà, tout est dans le nom. J'ai fait un petit tour sur leur site et je suis tombé sur ce qu'ils dénoncent et sur ce qu'ils revendiquent. Donc à savoir investir dans l'électrification des quais croisières, c'est pérenniser la venue des navires les plus polluants avec de l'argent public, que les beaux bateaux de croisière sont les plus énergivores et demandent une puissance indécente pour une activité qui est tout simplement substituable, que aussi à l'heure où la sobriété et la souveraineté énergétique doivent être des priorités pour préserver notre avenir mais aussi la paix, c'est inacceptable de mettre de l'énergie, quelle que soit sa source, pour l'activité des croisières, pour alimenter une patinoire en plein été, des écrans géants, des jacuzzis, des laser games, des bars, une climatisation. Et enfin, pour améliorer la qualité de l'air et protéger nos poumons, priorisons l'électrification des quais pour le chantier de réparation navale, des ferries, des porte-conteneurs, mais refusons ces navires de croisière à Marseille. Voilà, il y a 25 000 personnes qui sont mortes de la pollution à Marseille l'année dernière. Donc l'argument qui est mis en avant pour le développement des croisières, c'est avant tout les retombées économiques générées par les croisiéristes. Alors là, on a un super lobby des croisières qui nous sort des chiffres de combien dépensent leurs usagers dans les villes. En 2018, un article, enfin selon leurs calculs, c'était 19 millions de retombées économiques. Alors ces chiffres, ils sont grandement remis en question par l'anthropologue Michel Peraldi. Il dit que c'est très compliqué en fait d'arriver à différencier des touristes venus d'autres flux, mais que aussi les croisiéristes dépensent en fait majoritairement dans les galeries marchandes des gares maritimes, où se font les escales. Donc au final, ils ne viennent même pas tant que ça dépenser leur argent en ville. Donc l'argument économique, il ne marche même pas. Voilà, donc les croisières à Marseille, elles ont détruit les activités portuaires. Et elles génèrent énormément de pollution. En plus de ça, elles participent à promotionner un modèle néolibéral d'un tourisme consumériste, où, on vend un voyage à des personnes qui, en vérité, ne se laissent pas réellement le temps de s'intéresser à la culture, de s'intéresser à l'histoire, de s'intéresser aux habitantes et habitants de la ville. Et dans le modèle capitaliste qu'on a aujourd'hui, c'est très problématique.
Alors, on s'est posé des questions par rapport au sujet qui est abordé là par Carlo. Et on voulait partager avec vous notre discussion. Et la première question qu'on s'est posée, c'est justement de savoir où commence le tourisme. Parce que nous-mêmes pouvons l'être à certains moments, en tout cas de notre vie, quoi. Partir en vacances, se déplacer dans des pays qui n'ont pas du tout le même niveau de vie que nous. Et voilà, c'est une question qu'on a partagée et avec laquelle on voulait aussi discuter sur le plateau aujourd'hui. Du coup, cette question, où commence le tourisme ?
Où commence le tourisme ? Déjà, c'est sûr que la croisière, c'est une forme de tourisme que je pense qu'on peut un peu s'accorder autour de ce plateau sur le fait qu'on la condamne. Donc ça, c'est le côté peut-être un peu extrême où c'est bout ou pas bien. Après, il y a une question sur, par exemple, le tourisme. Est-ce qu'aller chez ses grands-parents, c'est du tourisme ? Parce qu'en soi, c'est aller dans un endroit qu'on ne connaît pas, dans un but de vacances, faire des activités qui, parfois, peuvent être touristiques. Voilà, on s'est interrogé notamment sur est-ce que se balader sur la Canebière, quand on n'habite pas la Canebière, c'est du tourisme ? En tant que Marseillais, ou sur la Corniche, plutôt, précisément ?
Le dimanche. Quand il n'y a pas de voiture.
Voilà. Est-ce que c'est du tourisme, selon vous ?
Robin, je crois que c'était toi qui avais l'idée sur se balader à la Corniche le dimanche.
Non, en fait, ça me posait question parce que l'usage des lieux, en fait, en fonction des jours de la semaine et des heures de la semaine, c'est pas les mêmes personnes et les mêmes usages. Et du coup, on voit, en tout cas sur des enjeux capitalistes, que le capitalisme met à disposition les espaces beaucoup plus pour les touristes que pour les habitants à des moments. Et c'est ça, un endroit qui pose question. Et que, par exemple, la fermeture aux voitures un dimanche par mois, pendant les beaux jours de la Corniche, en fait, ça permet à plein de gens qui habitent la ville, qui n'y vont jamais, d'y accéder. Et du coup, ça, c'est plutôt une mesure pour les habitants. Mais ça profite aussi aux touristes. Mais par contre, d'autres choses vont être faites uniquement pour les touristes. Donc voilà, c'est pour ça, se dire que les usages de des espaces de la ville, ils sont très changeants. Et du coup, il ne faut pas forcément voir des gens comme des touristes, alors qu'ils sont juste habitantes de quartiers pas du centre-ville.
D'où la question, d'où une autre question qui s'est posée à nous, c'est que quand on s'attaque au tourisme, est-ce qu'on s'attaque aux touristes ?
Ouais, c'était un peu la question qui faisait débat entre nous. On se disait que nous aussi, on était touristes nous-mêmes dans d'autres situations, mais qu'on ne pouvait pas non plus tout simplement interdire le tourisme de manière générale. Et que ce qu'on critiquait beaucoup, c'était ce modèle néolibéral de tourisme, où on met surtout à disposition des choses dans les villes, spécifiquement pour les touristes. Voilà, là, on a vu l'exemple avec les croisières, mais on le voit aussi avec le développement de Airbnb, dont on a déjà parlé dans l'émission. Au Panier, par exemple, c'est l'un des quartiers où il y a le plus de logements secondaires l'arrondissement où il y a le plus de logements secondaires pour le moins de personnes qui sont propriétaires de leur logement. Donc ça pose vraiment une vraie question aussi de qu'est-ce qui est mis en place pour le tourisme et est-ce que ça ne mange pas sur la vie des habitants en eux-mêmes.
Et moi, je trouve que cet exemple, il illustre bien qu'il y a une responsabilité des touristes. Effectivement, prendre un Airbnb dans une ville sans connaître la réalité du logement sur place, c'est un parti pris. Mais il y a aussi une forte responsabilité qui est portée par les propriétaires de Airbnb qui font le choix d'acheter ce bâtiment et de ne pas le mettre en location à des habitants-habitantes. C'est un choix aussi politique de la ville de pas pénaliser plus que ça ces multipropriétaires. Récemment, d'ailleurs, il y a eu un procès sur le sujet et finalement, les personnes qui ont un peu suivi ce procès en sont sorties assez déçues parce que c'est quand même un gros sujet à Marseille, ce sujet du Airbnb, et que les condamnations qui ont été faites ne sont pas assez dissuasives face à l'ampleur du problème et des difficultés de logement qu'on a à Marseille.
Et la question qui est soulevée là, elle est aussi de savoir comment, parce que la question du Airbnb, c'est évidemment une question éminemment politique et surtout économique, qui profite non pas aux personnes qui pratiquent le Airbnb, mais à la grande plateforme qui s'appelle Airbnb. Et ça, il faut le redire, du coup, je pense que c'est important. Mais d'autre part, c'est surtout de dire que qui utilise le Airbnb ? C'est des gens qui n'ont pas de maison secondaire. Donc c'est aussi des personnes qui sont, disons, aussi très d'un milieu aussi populaire et qui ont aussi le droit à des vacances. Du coup, c'est cette question, est-ce que c'est de la morale ? Comment on s'en sort de tout ça, quoi ? Mais peut-être qu'on peut essayer d'y répondre après la musique.
Faisons ça, musique.
Nous allons écouter 8-6 Crew, Marseille. rebienvenue sur, vous êtes sur Radio Galère 88.4, on vient d'écouter 8-6 Crew Marseille et on était sur un débat
sur le tourisme.
Voilà, on peut reprendre donc.
Ouais, voilà, on s'était arrêté sur la morale dans notre débat et sur est-ce qu'on critique tous les touristes de manière générale. C'est important de politiser la question aussi quand, voilà, et de pas juste râler pour rien et d'envoyer des choses comme ça. Il y a un rapport particulier très politique au tourisme qui dit beaucoup sur nous aussi. Et je pense qu'on est en droit aussi d'exiger des touristes qui viennent, que ça soit de partout, qu'ils se posent la question justement de leur place dans la ville, de la manière dont ils consomment et pourquoi est-ce qu'ils consomment telle ou telle chose quand ils sont des touristes.
Et du coup, ça amène toujours cette question du capitalisme et des moyens qui sont donnés au capitalisme pour mise à disposition des touristes. Et ce qu'on peut constater dans les villes et aussi dans les campagnes, c'est qu'il y a toujours plus d'espace, de lieux, d'argent, de temps mis à disposition pour le tourisme. Et du coup, ça fabrique et ça façonne du coup une ville et donc nous transforme nos usages quand on vit dedans, quand on travaille dedans, quand on joue, on s'amuse dedans et quand nous-mêmes on se retrouve en place de touristes, ça crée aussi ça nous crée des envies de tourisme en fait. Quand il y a toutes ces publicités faites de voyages, quand il y a sur les bus tout ça nous conditionne aussi dans nos échanges professionnels. Il y a ces questions de où est-ce que tu es parti cet été. Il y a des choses à raconter. Et du coup, bien sûr que dans nos vies, le capitalisme a imbriqué nos vies avec le tourisme. Donc, on ne peut pas s'en séparer totalement, quoi.
Effectivement. Et c'est un sujet en soi qu'on... J'ai l'impression qu'il est... débattu, qui est discuté en philosophie depuis le début du capitalisme. Moi, je me souviens dans mes cours qu'on avait vu des philosophes comme Adorno qui théorisait cette histoire du divertissement et de vraiment... En fait, on est tellement aliénés au quotidien, au travail, qu'en fait, on fait ça pour pouvoir ensuite ne plus être aliénés et consommer dans tous les sens et être des touristes, par exemple. Et c'est vrai que moi, je rejoins ce qui vient d'être dit, qu'il y a vraiment cet enjeu de voir les touristes. Moi, je suis serveuse en parallèle et tous les jours, je vois des gens qui mangent et qui mangent dans un restaurant. Et qu'est-ce que j'ai envie d'aller au restaurant ? Alors qu'en vrai, quoi de plus aliénant qu'un restaurant, finalement ? Donc oui, je pense qu'il y a un peu ce parallèle. Le tourisme nourrit le tourisme par les envies qu'il procure. Mais c'est important de ne pas blâmer les touristes qui, en fait, sont pris dans ce jeu-là et que ce n'est pas possible, en fait, de supporter cette charge que le capitaliste fait peser sur chacun, chacune, sans soi-même vivre ce capitalisme et ce qu'il vend par ailleurs, quoi.
Donc, vaste discussion. On a bien compris que le capitalisme, c'était de la merde.
Si ce n'était pas clair.
Merci de l'avoir reprécisé. Et juste pour conclure, peut-être que la saison des vacances arrive. Beaucoup de Marseillais et Marseillaises du centre-ville partent quand cette saison arrive parce qu'il y a un flot de gens qui débarquent avec en fait tout ce que ça veut dire.
Oui, ils envahissent les Cévennes, les Marseillais l'été.
Voilà,
pauvres,
c'est ça.
Les pauvres habitants des Cévennes.
Et au final, voilà, c'est voilà. Tout le monde est la victime et le bourreau de quelqu'un, quoi.
C'est ça, c'est de ça dont voilà, c'est que on n'est pas juste là en train de se plaindre. On sait très bien aussi que nous sommes acteurs et actrices dans ce système. L'important, c'est de le questionner. Nous allons maintenant passer à l'agenda. Allez, qui commence ?
Allez, je me lance. Vendredi 24, donc ce soir à 19h, il y aura la cantine de soutien à la Sale Gueule. C'est à Manifestend, donc c'est au 59 rue Thiers. Et il y aura aussi un DJ set et cantine à prix libre. Donc pour rappel, la Sale Gueule, c'est une salle de concert et un lieu d'échange et de rencontre emblématique de Marseille qui est active depuis maintenant 14 ans. et qui a malheureusement subi une fermeture administrative depuis le mois dernier. Donc des soirées de soutien sont régulièrement organisées pour que cet endroit réouvre après les travaux qui ont été demandés par la préfecture. Donc allez voir les réseaux de la sale gueule et participez aux soirées solidaires si vous pouvez.
Le 25 avril marque l'anniversaire de la libération du nazifascisme en Italie. Et le 25 avril, c'est aussi une occasion de se retrouver pour renforcer nos liens et notre entraide à la lumière du climat répressif qui envahit l'Europe. À cette date, nous organisons une journée festive et de débat. Alors quand je dis nous, c'est pas moi, c'est la communication en question. Et de débat pour réaffirmer les valeurs de l'antifascisme et renforcer les réseaux de solidarité en compagnie des comités de soutien aux impliqués dans l'affaire de Budapest. Au programme, à 15h, il y aura une pétanque antifasciste et un atelier peinture. À 16h30, une prise de parole sur l'état de la répression en Italie. À 16h45, un débat sur la criminalisation de l'antifascisme en Europe avec le comité solidarité Budapest Paris, le comitato anti-rep Milano, Free All Antifa Italie, la caisse de solidarité Lyon. Et à 19h, un apéro antifa, musique, bouffe, pastis, spritz, DJ set.
Toujours samedi, et cette fois-ci de 10h30 à 16h, dans le cadre des journées de visibilité lesbienne et lesbien. Il y a un rendez-vous au Parc Longchamp, proche du zoo, dans le cadre pour créer du lien joyeux et chaleureux aux enfants et grandes personnes, dans une perspective de partage, d'accueil, de transmission des cultures lesbiennes et de lutte contre la domination adulte. Des livres consultables sur place, des fanzines, un espace chill pour traîner dans l'herbe, des coloriages, de la peinture, des crêpes pour dessiner par terre. Ce sera super.
Et le 25 aussi, c'est l'émission Coco de Radio Galère qui sera au Vidéodrome 2 pour une émission spéciale de 18h à 19h30 sur le thème « Comment créer des espaces d'auto-organisation communautaire ?» Apprendre à gérer les conflits, les débats à l'intérieur de ces espaces, comme d'habitude, du bon son, des lectures, du blabla. Donc venez rencontrer et soutenir l'équipe de Coco à cette table ronde. Et il y aura aussi une projection du film Coconut Head Generation de Alain Casalda à 20h30.
Le dimanche 26 avril, donc en 2017, a été voté l'article 435-1 qui élargit l'usage des armes à feu par la police après l'affaire de Viry-Châtillon. Donc dans les mois qui suivent, les tirs augmentent de 50%. Souheil, 19 ans, c'est l'une des victimes en 2021. À Marseille, depuis sa famille lutte pour la liberté contre l'oubli avec le collectif Save, Stop aux violences d'État. Autour justement de cet article 435-1. Donc vous pouvez aussi retrouver sur le site de Radio Galère une discussion avec Issam El-Kafaoui pour l'occasion, qui est le père, il me semble, de...
Issam El-Khalfaoui, pardon.
Ah, El-Khalfaoui, pardon. Oui. Donc qui est le père de Souheil, si je ne dis pas de bêtises.
Tout à fait.
C'est au Vieux-Port à 14h, ce dimanche 26 avril.
Et comme d'habitude, la manifestation soutien à Gaza à 14h à la porte d'Aix.
La marche ?
Il y a aussi la marche des visibilités lesbiennes à 14h30. Ah, moi je croyais que c'était 18h30 à la place Castellane. C'est 14h30 ?
Moi j'ai vu 14h30. Communication.
Ah bah 14h30 aussi.
Renseignez-vous peut-être. Alors toujours dimanche 26, il y a la conférence internationale sur le panafricanisme. On peut être panafricaniste sans être révolutionnaire, mais on ne peut pas être révolutionnaire sans être panafricaniste. Bien au-delà d'une mode conjoncturelle, le combat panafricain signifie le projet d'émancipation et d'affirmation de l'Afrique, une fois pour toutes débarrassée de la nuit coloniale et de ses versions modernisées. Des discussions avec le Parti communiste Soudan, le Parti communiste Swaziland, Parti communiste marxiste Kenyan et le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, et d'autres encore. Et ça se passe à la Fraternité, 7 boulevard Burel dans le 3e, à partir de 14h30.
Et moi, il me semble que c'est quand même 18h30, parce que l'idée, c'était de faire une marche de nuit.
Ah, c'est ça, c'est la marche des visibilités lesbiennes.
Ouais, c'est ça. Bon, à vérifier. Allez voir, vous allez retrouver l'info sur Internet, sur Instagram et compagnie.
Ok. Et là, on saute direct à jeudi ?
Bah, je crois bien, oui. Jeudi 30 avril à 18h30 à Manifestaine, 359 rue Thiers. On aura des informations, discussions sur la résistance au Rojava. C'est organisé par le CIMC, le collectif international Marseille-Kurdistan.
Et voilà, les infos choisies, c'est fini. Merci pour votre écoute. On vous retrouve très bientôt.
Ciao, ciao. Et ciao, ciao. Maintenant, c'est l'heure de l'agenda alternatif musique avec Mélodie.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.